Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Aujourd'hui, à mes côtés, une seule personne de l'équipe, à savoir Soutsou, qui est avec nous. Salut.
Salut.
Et un invité dont je suis vraiment très fier de recevoir et très content, avec une réputation qui n'est plus à faire. Il est arrivé dans nos bibliothèques avec The Grocery, puis il a fait le facing toujours de nos bibliothèques avec PTSD. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Saint-Gelin, auteur, créateur et un petit peu magicien au label 619. Bienvenue et merci de te joindre à nous.
Merci beaucoup et puis salut à vous et puis merci pour l'invitation.
Du coup, comme je le disais, on va directement attaquer par le gros du sujet avec quelques petites questions et profiter du temps que tu nous accordes. Tu as commencé avec The Grocery jusqu'à l'Obaloka en passant par le super et merveilleux et extraordinaire et j'ai encore plein d'autres mots à PTSD. Tu as aussi pu toucher à Mutafukaze le film. Comment tu es passé d'un à l'autre comment tu passes d'un à l'autre type de support, média, comment tu appréhendes et comment tu te prépares à ce genre de choses?
C'est vrai que c'est essentiellement de la bande dessinée. Le film Mutafukaze, c'était un peu une surprise. Moi, j'avais fait un stage de fin d'études à Ankama. Donc, j'étais en école de graphisme à l'époque. Et j'avais travaillé sur le premier Doggy Bags à ce moment-là. Et à la fin de mon stage, en fait, Ron m'avait dit qu'il y avait le film qui se mettait en place. Et qui voulait que je bosse dessus en tant que sur la pré-production, donc créer des persos, redesigner un peu les personnages de la série, de la BD pour le film. Donc voilà, ça m'a un peu tombé dessus par hasard. Moi, je suis pas du tout dans le monde de l'animation à côté de ça, donc je le voulais au début, mais j'ai pas réussi les études pour, donc j'ai switché vers la BD. Et après, pour les autres projets, que ce soit Doggy Bags, Grossery, PTSD, c'est vrai que c'est des projets qui sont assez différents, mais moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est de changer de style, changer de ton d'histoire et continuer à explorer. Je pense que je suis pas encore, je pourrais pas dire que je suis encore mature dans mon sujet, dans mon style. Du coup, j'aime bien explorer plein de choses différentes.
D'accord. Du coup, tu viens de le dire, c'est des styles différents. Sur The Grocery, on est passé sur une série longue, entre guillemets, de plusieurs tomes. PTSD, c'est un one-shot long. Et Doggy Bag, c'est plutôt des petites histoires courtes.
Ouais.
Comment tu les travailles et comment tu fais, en fait, est-ce que tu as la même façon de procéder sur un titre comme The Grocery, qui est un titre long, ou PTSD, qui est un one-shot, ou juste une petite histoire rapide? Est-ce que pour toi, c'est des sujets que tu travailles différemment ou
ouais.
Pareil?
Je pense que la plus grosse différence, c'est vraiment entre Doggy Bags et le reste. Sachant que Doggy Bags, c'est des histoires courtes de 30 pages. Ce qui est cool avec ce format-là, c'est justement, ça me permet de tester un style graphique sur lequel je suis pas encore sûr. Comme ça, c'est pas un engagement qui va me prendre un an, deux ou trois ans. C'est sur 3-4 mois et je peux vraiment tester un truc, genre c'était sur l'épisode, je crois que c'était tome 10, un truc comme ça, sur un épisode qui se passe au Japon féodal. Donc je voulais tester du pinceau, faire des trucs un peu aquarellés. Sur un autre épisode, je voulais tester un ancrage très marqué. Donc Doggy Bags, c'est bien parce que c'est un petit labo qui permet de tester des choses visuelles. Après, sur que ce soit PTSD ou Grossery, c'est pareil, c'est différent, c'est que Grossery, je bosse avec un scénariste, avec Aurélien Dupoudray. Donc, voilà, moi, je me laissais un peu guider par son univers, par son histoire. Et moi, je me suis approprié. Puis, au fur et à mesure, en fait, ça a déroulé comme ça pendant quasiment 5 ans. Et PTSD, c'est la première histoire que j'écrivais. Donc, là, c'est pareil, c'est une autre approche. C'est vraiment mon histoire avec mes personnages et toute la phase d'écriture qui était nouvelle pour moi. Donc, écrire un scénario et tout. Et d'ailleurs, PTSD, j'ai mis quasiment un an et demi à l'écrire. En fait, à côté, je finissais Grossery et j'écrivais sur mon temps libre PTSD parce que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour écrire. Alors que l'histoire est finalement assez simple. Mais ouais, c'est vrai que c'est des approches qui sont différentes de par leur format et de par leur la direction. Bosser tout seul, bosser avec un scénariste, c'est pas pareil. Et ouais, voilà, mais c'est vrai que ouais, Piquet-Z, c'était un peu mon projet vraiment perso à 100%. Donc c'était assez particulier aussi.
D'accord. Vas-y, je t'en prie, Lucie.
Toi, du coup, qu'est-ce que tu préfères? Enfin, est-ce que tu aimes être scénariste? Tu préfères voilà, l'idée? Qu'est-ce que tu préfères?
C'est vrai que j'ai pris goût à l'écriture maintenant là, avec PTSD. Et, le prochain projet, je l'écris tout seul encore. Donc c'est vrai que c'est un truc qui me plaît vraiment. C'est ce qui est agréable en fait. Le premier truc qui est agréable en fait à ce niveau-là, c'est que c'est un peu la boîte à jouer. C'est vrai que moi, à la base, j'aime vraiment dessiner. Et en fait, quand j'écris mon scénar, en fait, je peux écrire exactement les scènes et les univers que j'ai envie de dessiner. Des fois, je me dis, ah tiens, tu vois, dans PTSD, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un petit restaurant. Parce que j'adore dessiner ce genre d'ambiance. Donc, limite, je vais créer mon scénario pour que je puisse caler une scène de cuisine ou une scène sur les toits de façon HK. Donc, c'est ça qui est agréable en fait quand on écrit, c'est qu'on peut vraiment. On fait vraiment les scènes qu'on a envie de faire. C'est vrai que quand on bosse avec un scénariste, sans dire que c'est chiant, mais des fois, il nous fait. Alors là, je veux une scène qui se passe dans tel lieu ou tel truc. Et c'est pas le truc que je voulais faire tout de suite. Du coup, il faut en plus se forcer à rentrer dedans, même si au final, c'est hyper agréable. Donc il y a écrire en fait, ça donne vraiment un côté perso où tu peux vraiment faire tes trucs. Après tu peux un peu tomber justement dans juste tes kiffs perso. Et bosser avec un scénariste, c'est bien parce que ça te pousse vraiment à aller ailleurs, à tester des choses que tu n'auras pas fait tout seul. Mais par contre, là je m'en aperçois au fur et à mesure, c'est qu'il faut vraiment trouver la bonne personne avec qui bosser. Quoi. Là moi je suis très bien entendu avec Aurélien et Ron sur Grossery et Lubaloka. Parce qu'on avait des sensibilités qui se combinaient bien, on avait à peu près les mêmes références. Mais j'avais bossé avec d'autres scénaristes où c'était beaucoup moins intéressant parce que finalement on n'avait pas grand chose à partager et finalement c'était plus de la commande qu'autre chose. Donc aujourd'hui je dirais que je préfère écrire, sauf si je tombe avec la bonne personne.
Et juste avant, Lucie, je te laisserai reprendre après. Tu parles que justement vous aviez la même affinité avec Ron et avec Adrien. Oh. Aurélien. Avec Aurélien. J'avais pu rencontrer Florent Maudou à Angoulême, justement, qui pareil, lui, il fallait que le scénario ou que la personne avec qui il travaille y ait un feeling et que ça passe. On en parlait justement un petit peu après, ça sera une question qui va revenir. Mais toi, tu as un peu le même sentiment, si le projet ne te parle pas ou qu'il n'y a pas d'accroche, c'est plus difficile pour toi de mettre en place, de te lancer. Quoi.
Ouais, bah, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai le luxe de pouvoir en plus choisir mes projets. Et je sais que j'ai refusé beaucoup de projets parce que j'avais pas d'affinité soit avec la personne, non pas que ce soit on va dire, un côté méchant ou pas, hein, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas le petit feeling, le petit truc qui passe pas, ou le scénar me parle pas. Il y a beaucoup de scénars où je dis, au demeurant, il est intéressant, mais moi, il me parle pas personnellement, je le sens pas dans mes tripes. Je préfère que tu trouves un autre dessinateur qui va vraiment le vivre à 200%, parce que si c'est juste pour faire de la commande, c'est assez inintéressant. Donc, ouais, l'alchimie, je préférerais presque bosser avec un scénariste qui est pas expérimenté, débutant ou quoi. Mais par contre, une vraie relation humaine, en fait. Parce que le scénario, c'est plus intéressant quand il y a un vrai ping-pong, en fait, entre le dessinateur et le scénariste. Le cas de figure où un scénariste arrive avec un scénar qui est bouclé, qui est déjà ficelé, et que toi, tu as juste à le dessiner derrière, c'est pas super passionnant. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je trouve plus ça passionnant. Par contre, je sais qu'avec, par exemple, avec soit Aurélien ou même Ron, voilà, il me donnait une scène à dessiner, moi je la dessinais, puis eux en voyant la scène, la façon dont elle était dessinée, ça allait peut-être leur donner des idées pour écrire la suite, voire même modifier des trucs. Et en voyant leurs modifications, moi je modifie un peu mes scènes suivantes. Et en fait, il y a un vrai ping-pong narratif qui se crée.
C'est un vrai échange qui fait évoluer autant le scénariste pour son histoire que le dessinateur pour son trait.
Complètement, oui.
D'accord.
Oui, et puis il y a toujours du coup la volonté de garder plaisir finalement dans ce que tu fais, de ne pas te forcer à aller dessiner des scénarios de choses qui ne t'intéressent pas forcément.
Ouais,
de rester dans ce qui te plaît. Du coup, au niveau pour rester dans tes préférences, est-ce que tu préfères dessiner plutôt en traditionnel, tout ce qui est aquarelle, tout ça, ou plutôt numérique, ou est-ce que les deux te plaisent?
Moi, j'ai plutôt un affect sur le traditionnel. Pour tout ce qui est. côté technique, en termes de trait, vraiment ancrage. Donc vraiment la ligne noire. Moi, je fais toujours tout, tout à la main, en tradis sur des feuilles en originaux. J'arrive pas du tout à dessiner en digital. Par contre, la couleur, j'ai dû me faire un peu au truc de bosser en digital parce que c'est beaucoup plus cohérent avec une production qui est entre guillemets industrielle. On a 200 pages, voire plus de 500 pages en grossérie. C'est plus facile à gérer le numérique parce que ça permet de faire des retouches faciles, ça permet de faire beaucoup d'ajustements, ça permet d'avoir aussi des couleurs qui sont un peu plus calibrées pour l'impression au final. Ma toute première BD qui s'appelait King David, je l'avais fait entièrement à l'aquarelle et c'était un super super truc à faire, mais par contre c'était très contraignant quoi. Donc parce que déjà la technique est complexe, vu que c'est un peu accidentel, on se permet moins de choses vivre parce qu'on a peur de louper, du coup on reste dans des trucs assez basiques, enfin en tout cas pour mon expérience. Donc si je pouvais tout faire en tradi, je le ferais, mais en ce moment, c'est trop compliqué de gérer ça.
Du coup, ça reste un petit peu comme ça. Tu as fait PTSD, du coup, qui a eu sa première version en version US chez First Print.
First Second.
First Second, pardon. De fait, tu bossais en numérique pour échanger avec eux ou tu étais en tradi purement
SMS. Je suis pour. C'est comme pour les autres projets. PTSD, j'ai dessiné en tradi et je coloriais en numérique. Et puis après, j'ai envoyé des planches scannées et mises en couleur sur Photoshop.
D'accord, ok.
Assez classique.
Ouais. Du coup, je reste sur First Second qui, lui, a vu ton PTSD paraître avant la France. En France, le PTSD a eu un accueil chaleureux, attendu presque. Tu as eu un petit peu le même retour avec ta version US ou tu as vraiment deux publics différents entre guillemets?
Je pense que le public est assez similaire en fait de ce que j'ai pu voir en fait les gens que j'ai pu voir en France les retours que j'ai eu aux US c'est à peu près le même type de public. D'ailleurs en proportion c'est à peu près le même nombre de ventes donc on est assez cohérent là-dessus. Après c'est vrai que les US, moi j'étais content parce que j'avais beaucoup de gens qui me suivaient avant, qui venaient des US, qui me suivaient sur mes réseaux sociaux, sur mes dessins, et aucun de mes bouquins était en anglais, donc j'étais content de pouvoir sortir enfin un bouquin que ces gens-là puissent lire. Mais après, le public est assez proche finalement en termes de style. Après, ce qui a été intéressant sur PTSD, vu que voilà, le sujet est assez. C'est un sujet qui est assez d'actu aux US. Le sujet des vétérans et j'ai eu pas mal de retours justement de vétérans de militaires en fait soit d'Irak ou d'Afghanistan qui l'avaient lu donc c'était assez intéressant par rapport à ça.
D'accord.
Ça c'était cool.
Et moi j'ai aussi une question étant donné que ton PTSD est sorti aux US chez First Second, eux ils ont une façon de travailler qui est peut-être différente de celle du label 619 que justement Florent nous parlait à Angoulême, c'est une entente un peu assez famille, il nous expliquait, que vous connaissiez depuis longtemps, etc. Alors j'imagine que la façon de travailler chez First Second est absolument pas la même que celle avec le label 619, du coup c'est pas très comparable, mais par rapport à un éditeur français, pour proposer deux BD, toi qui as fait les deux au final, est-ce qu'il y a vraiment une différence sur la manière de travailler, de proposer un livre sur le marché US ou sur le marché français?
Je pense que mon expérience, elle serait un peu biaisée à ce niveau-là, c'est que dans le sens où First Second, c'est peut-être le plus européen des éditeurs américains. C'est vraiment, ils ont une ADN qui est très, très, très européenne. D'ailleurs, c'est eux qui ils font beaucoup de traductions, ils traduisent beaucoup de franco-belge aussi pour les US. Donc en fait, et le directeur d'édition parle français, il vient en Angoulême régulièrement. Donc j'ai pas été dans l'expérience de par exemple bosser pour Marvel ou un DC, qui je pense a un vrai process à l'américaine. First Second, ils sont très européens en fait.
Oui, du coup en fait le PTSD, le projet était fait pour être en one shot dès le départ.
Ouais, ils ont même pas, comme on pourrait imaginer, ils ont pas de sortie feuillet, trucs comme ça.
D'accord.
C'est vraiment, ils sont très très classiques à ce niveau-là. Moi, la différence que j'ai eue avec eux, c'était que, en fait, l'anecdote, ça vient qu'en fait, moi, j'étais un petit peu en retard sur ma date de rendu du projet, 3-4 mois. Et en fait, à cause de ce retard, ça a décalé mon bouquin de quasiment un an. Parce qu'en fait, eux, quand ils ont un bouquin, en fait, ils passent énormément de temps à le vendre aux libraires et notamment aux médiathèques. Et comme les US, c'est un territoire qui est gigantesque, en fait, tout ce travail de prospection en avance, il est très, très, très long, quoi. Donc, j'ai ressenti ça au niveau vraiment du côté marketing et de la sortie, c'est que la synergie, elle est beaucoup plus grande parce que voilà, c'est un grand territoire, c'est beaucoup de villes, c'est beaucoup d'acteurs différents. Du coup, c'est vrai qu'en France, quand on finit un bouquin, 3 mois après, il est dans les bacs, quoi. Là, pour eux, c'est un process qui est beaucoup plus long et plus complexe.
Et tu as ressenti une différence à sa sortie, par exemple? Est-ce que l'éditeur First Second, il l'a un peu plus poussé, enfin un peu plus poussé, je m'entends. Est-ce que par rapport à la France, est-ce qu'ils sont mis en avant, entre guillemets, plus longtemps que par rapport en France?
J'ai l'impression que j'ai du mal à savoir, parce que c'est vrai que sans être vraiment sur le territoire, et même moi je connais pas vraiment le marché US, en fait, ils ont des types de boutiques qui sont assez précis, ils ont des boutiques de comics qui sont 100% comics. C'est pas le même type de marché. En France, il a été bien mis en avant parce que c'était un bouquin dans le label, c'était ma nouvelle sortie du label, donc en Kama, le label bien poussé, donc c'était assez cool. J'ai l'impression que Petit SD aux US, c'est un bouquin qui va se vendre sur le long terme, parce qu'il est, tu vois, comme je disais, en fait, il est proposé dans beaucoup de villes différentes et beaucoup de. Ils ont un gros travail autour de tout ce qui est médiathèque, trucs comme ça. Donc, il y a un côté où il y a peut-être une sortie qui a été un peu moins marquante, mais par contre, il est présent, je pense, sur le long terme. Ça, c'est cool.
Lucie, tu avais une question, non ?
Ouais, toujours concernant PTSD. La thématique donc, de PTSD, c'est le syndrome post-traumatique. Est-ce que c'était un sujet, toi, qui t'intéressait à la base, sur lequel tu avais envie d'écrire, ou enfin comment ça t'est venu, cette thématique-là?
En fait, moi, au début, j'avais commencé à créer l'univers visuellement. Et comme c'est la première fois que j'écrivais, j'avais du mal, tu vois, à avoir vraiment l'accroche narrative de ce projet-là. Et en fait, j'ai un peu décortiqué tout ce que j'avais aimé comme œuvre, comme film, série. Et il s'avère qu'en fait, ce sujet-là revenait souvent dans des œuvres que j'aimais, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'intéressait. Et quand j'ai compris que ça pouvait être un sujet qui marchait bien avec mon univers, je l'ai poussé, je me suis documenté. Et j'ai essayé d'intégrer des éléments un peu plus perso, on va dire, parce que le PTSD m'a pas touché vraiment personnellement. Mais j'ai essayé d'intégrer un peu différentes choses. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est venu un petit peu au fur et à mesure. C'est pas forcément un thème sur lequel je voulais écrire depuis des années. Quoi. C'est vraiment. C'est arrivé au fur et à mesure de l'écriture. Quoi.
D'accord.
Ben, ma question suivante, c'était ça. Est-ce que les thématiques dont tu parles, c'est des thématiques sur lesquelles toi, tu as la volonté d'écrire, ou parfois c'est juste parce qu'elles s'immiscent au fil de tes histoires et que du coup, tu te dis, celle-là, peut-être elle est intéressante de développer et ça vient comme ça, ou c'est vraiment des choses que toi, tu avais prévu avant, entre guillemets.
Non, je me laisse pas mal de, on va dire, de liberté au niveau de l'écriture. Après, c'est vrai que j'aime bien poser des paliers assez importants pour quand même avoir un fil rouge. Mais en fait, moi, quand j'ai écrit, et là, j'écris en ce moment, ce que je fais, c'est que j'écris des fois des idées assez basiques, tu vois, en quelques lignes d'une histoire. J'écris sur un petit doc et je laisse reposer pendant quelques mois. Puis je ressors ce doc et en fait, je relis l'idée, je me dis, tiens, est-ce que ça me parle toujours? Est-ce que c'est bien? Et en fait, justement, j'écris plein d'idées comme ça, droite à gauche. Et je laisse un peu le temps faire le écrémer, en fait. Des fois, il y a des idées, je me dis, pourquoi je fais ça bien, alors qu'en fait, ça m'intéresse pas du tout. Puis des fois, il y en a qui restent comme ça tous les mois, elle revient. Et à ce moment-là, je me dis, si j'y pense tout le temps, cette idée-là, c'est qu'elle a un truc qui est intéressant, quoi. Et ça peut même arriver au milieu de l'histoire où je me dis, je vais écrire un dialogue parce que là, il faut écrire un dialogue. Et puis, je m'aperçois que en fait, ce dialogue-là est intéressant. Peut-être que je peux l'exploiter sur la scène suivante. Donc, je suis pas très carré encore pour l'écriture. Et j'aime bien me laisser un peu de flou pour que ce soit un peu plus agréable.
D'accord. C'est un peu le feeling et la liberté, là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais d'un côté, tu restes, voilà, comme on disait, dans le plaisir de faire ce que t'aimes, et de parler de choses finalement qui te plaisent, quoi, vraiment.
Ouais, complètement, ouais. Ouais, non, c'est un boulot qui demande pas mal de travail sur des longues périodes. Donc c'est vrai que c'est si on peut combiner vraiment avec des choses qu'on aime vraiment faire et qu'on aime écrire, c'est mieux parce que sinon ça peut vite être assez éprouvant.
Du coup, moi, j'ai relu Pitié d'hier, et c'est vrai que je trouve que, je me trompe peut-être, mais je trouve que ton style de dessin est quand même reconnaissable, mais assez différent dans PTSD par rapport à Lobaloka, ou même l'histoire que tu avais fait dans Midnight Hells. Je trouve les visages des personnages sont assez différents. Est-ce que c'est plutôt une évolution de ta part, ou c'était une volonté de dessiner des personnages? Par exemple, c'est vrai que June, je trouve qu'elle a vachement des grands yeux. Il y a des personnages qui ont des petites têtes assez mignonnes dans PTSD. Toi, ça a été plutôt une évolution au fur et à mesure, ou vraiment une volonté dans PTSD de dessiner les personnages de cette façon?
Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'à l'époque, je sortais de grosses souris, donc j'étais sur des petits persos vachement tassés. Et d'un coup, j'avais envie de dessiner des choses assez rondes, effectivement avec des grands yeux. Tu vois, les membres sont assez en volume et tout. Et ouais, c'est un peu. Après, moi, j'aime bien varier en fait le style graphique. J'aime bien que mon style graphique puisse retranscrire un truc par rapport à mon histoire. C'est vrai qu'avec Midnight Hells, j'avais des images différentes. En voyant l'histoire de Mathieu, je voyais plus le graphisme de PCSD, je voyais un truc plus comment dire élégant entre guillemets, avec des traits bien bien nets et tout. C'est un peu, je me laisse un peu porter par l'histoire ou l'univers. Et c'est vrai que moi j'aime bien varier en fait, je trouve ça plus agréable. Mon nouveau projet c'est encore un autre style différent. Donc c'est pas forcément très conscient, mais au fur et à mesure, ouais, je me fixe un peu sur des styles en fonction des histoires.
D'accord. Moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu aimais bien faire des choses comme c'est des travaux assez longs qui se rapportent à ce que tu aimes. Du coup, dans PTSD, promis, après j'arrête de parler de PTSD parce que j'ai d'autres questions. On a quand même de nombreuses références, rien qu'avec Rambo, on a de la référence. Metal Gear, je pense un petit peu aussi. On voit beaucoup de la ville dans laquelle June évolue. C'est un mélange de beaucoup de villes existantes, enfin qui donne un semblant de ville existante sur un mélange un petit peu. Comment tu récupères toutes ces références-là, que tu en fais une espèce de mash-up et que tu les retranscris après? Comment tu le prépares à ça?
Je sais pas si je le prépare vraiment, je pense que c'est. Tu vois, Rambo, en fait, je l'ai vu il y a des années, je l'ai pas rematé, mais étrangement, tu vois, il est toujours un peu au fond de ma tête, tu vois. J'essaie pas forcément de me dire, genre, allez, je vais faire une œuvre. Enfin, une œuvre, je vais pas faire forcément une histoire qui va prendre telle et telle référence. Ça vient assez naturellement. Moi, j'aime bien mater beaucoup de films, de séries, lire des bouquins. Et c'est pareil, c'est un peu, j'essaie d'absorber tout ça et finalement, naturellement, il y a des choses qui vont rester, des choses qui vont ressortir. Mais c'est pas forcément un truc que je prépare en avance. Mais c'est vrai que voilà, là sur PTSD, moi je vivais au Japon à ce moment quand j'ai commencé à bosser sur le projet. Donc forcément, les villes asiatiques, ça me. J'étais en plein dedans, donc j'avais envie de dessiner Tokyo, donc j'ai fait une version un peu étrange de Tokyo, mais ça part de là. Et j'ai pas mal voyagé en Asie, donc c'est toujours les pays qui me plaisent. Donc visuellement, c'est des choses que j'ai envie de dessiner, donc en fait ça se ressort comme ça, quoi. Après j'essaie de bien digérer pour pas que ce soit non plus trop référencé ou trop marqué. Donc des fois c'est pour ça que je fais un peu un mix entre plein de références pour que ce soit un peu dilué. Ouais, un peu comme le reste, c'est pas vraiment conscient.
Ça se fait un petit peu au fil de ton travail, quoi, ça apparaît.
Ouais.
Oui, puis c'est ce qui te nourrit finalement, tu te dis pas je vais mettre ça, mais c'est ce qui fait finalement l'artiste que t'es, quoi, finalement.
Oui, voilà,
Je
exactement. C'est un peu un cumul de mon vécu et puis de ces années de comment dire, ouais, de culture. Et puis à un moment, cette envie du moment. À ce moment-là, j'avais dessiné des trucs urbains, j'avais envie de parler de ces sujets-là, j'avais envie de parler de la solitude, de l'enfermement, un truc comme ça. Aujourd'hui, là, par exemple, bah, c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie d'écrire parce que c'est plus ce que je ressens en ce moment. Donc là, je repars avec d'autres sentiments, d'autres moods. Là, j'ai envie de dessiner de l'espace, j'ai envie de dessiner des grands lieux vides, des trucs comme ça. Donc c'est un peu. Ça va un peu au fil des envies, effectivement, ça reste un peu sur la même thématique que le reste. Mais c'est vraiment ça, j'ai envie de me laisser porter parce que ce qui me touche sur le moment, tout en puisant dans mes réflexions passées, mais j'ai pas forcément écrit un truc où je dis, ouais, c'est de mon œuvre et tout, je vais bosser pendant 6 ans à faire que ce truc-là. J'essaie de profiter un peu du moment présent et de dire, allez, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, quoi.
D'accord. Du coup, ben, je le disais, on va arrêter un petit peu avec PTSD, même si j'en ai des centaines et des centaines de questions. C'est dans mon top 3 all time pour le moment. Là, moi, je vais profiter, on va basculer un petit peu avec ton actu. Du coup, on a fin novembre ou mi-novembre exactement, je ne me souviens plus la date.
Oui, c'est mi-novembre, je crois. Ouais.
Voilà, l'intégrale de Loba Loca qui va apparaître. Qui était déjà paru au format épisodique, un petit peu au format comique traditionnel du 20-25 pages. Comment toi, t'es arrivé là-dessus? On sait que tu connaissais Run, que tu avais du coup un petit peu travaillé, comme tu nous disais, sur Motafukaz. Est-ce que du coup, comme tu étais un petit stagiaire à l'époque, Run, il t'a dit « Bon, mais maintenant, t'es mon stagiaire, tu vas travailler pour moi » ou ça s'est passé comment t'en arrivé sur Baloka?
Ouais, bah c'est. Je sais plus à quel moment, je pense que c'était à la. Il m'en avait peut-être parlé à la fin de Grosse Souris, un truc comme ça. Déjà, on se connaissait déjà très bien avec Run, hein. C'est vraiment un pote maintenant, plus que mon boss ou un collègue, hein, c'est vraiment un pote. Et je savais qu'il avait cette envie de spin-off. Et ce revenu, comme ça, on en parlait régulièrement. De temps en temps, il fait ah, tu sais, j'ai une histoire. J'aimerais bien parler de la fille, machin et tout. Et moi, je disais, bah ouais, ça me plaît dans l'idée, quoi. Puis, en fait, on en parlait régulièrement et c'est venu comme ça. Et je pense que ce que j'ai pu faire sur PTSD ou même sur certaines histoires, bah, ça a dû aussi lui le faire cogiter, aussi à pousser son écriture et à me le proposer à moi. Je pense qu'il l'aurait pas, ce qu'il me disait, il ne l'aurait pas fait tout seul ou avec quelqu'un d'autre, il l'aurait fait avec moi uniquement. Donc ouais, c'est à craindre, souvent des projets, c'est une petite discussion autour d'une idée. Et puis, encore une fois, si l'idée elle revient comme ça tous les mois, bah, c'est qu'il y a peut-être un truc à creuser, quoi.
Ça marche. Du coup, vous avez bossé ensemble là-dessus. Comment vous avez bossé tous les deux? C'est comment de bosser avec Run sur ce genre de projet? Et est-ce qu'il t'a laissé de la liberté pour faire un petit peu évoluer, évoluer c'est un bien grand mot, mais pour apporter ta touche au personnage ou à l'univers?
Ouais, il était pour le coup, il était vachement ouvert, il avait, on va dire, les bases de l'histoire en tête. Il savait que il connaissait la dynamique de fin de l'histoire, mais sans entrer dans les détails. Donc en fait, quand on a commencé le projet, c'était assez, il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est ça qui était intéressant. Et je me souviens, parce que moi j'avais bossé avec Run, la toute première fois, je crois que c'était Doggy Bags 2, donc ça remonte à un petit moment. Et je me souviens, parce qu'il y avait une scène qui se passait dans un parking et tout, donc moi je la dessine et tout en storyboard. Et il arrive derrière moi, il fait non, et tout, là ça va pas, faut que la voiture arrive de gauche, parce que moi je l'imaginais comme ça. Après le mec il sort à droite et tout comme ça. Et en fait, il avait une vision de dessinateur vraiment à ce moment-là, il avait écrit sa scène comme si lui il allait la dessiner. Et en fait, là pour Loba Loca, en fait, il a appris à lâcher du lest, surtout parce qu'on se connaît bien, il me fait confiance. Mais là, par contre, il était très, très vague sur tout ce qui était mise en scène. Donc, il m'a vraiment laissé toute la mise en scène comme je voulais. Sauf des fois qu'on avait vraiment une idée précise, mais c'était assez rare. Et donc, au niveau dessin, j'ai vraiment pu m'éclater. Moi, j'ai pu faire le design comme je voulais. Mais après, moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, tiens, Tigre, tu le vois comment quand il sera plus vieux? Donc, c'était assez. Il y avait beaucoup d'échanges. Et pareil, après, pour les comment dire, l'aspect narratif, écriture, on en parlait beaucoup. On discutait beaucoup de est-ce que tu penses que Guadeloupe réagirait comme ça à telle situation? Non, moi je pense plutôt comme ça. Et puis, voilà, on faisait évoluer vraiment de chapitre en chapitre à l'écriture. Et puis voilà, il y a des moments où il y a un épisode qui est un pur road trip. Moi, à l'époque, je venais juste de rentrer des US, donc j'étais en plein dedans. Lui, c'est un truc qui adore aussi les road trips. Donc là, on était vraiment en osmose parce qu'on avait exactement les mêmes références. Il m'envoyait des photos de ref de ce road trip. J'avais quasiment les mêmes dans mon appareil photo, donc je me suis dit, ok, c'est bon, on a la même vision du voyage. Donc c'était, il y a eu beaucoup d'échanges, et d'ailleurs, la fin de l'histoire, c'est, on l'a finalisé, donc l'année dernière à la Comic Con, justement, quand on s'est croisé à la Comic Con, on rediscutait de la fin de l'histoire, et on l'a trouvé à quelques mois de la fin du projet, donc c'était vraiment, c'était en perpétuellement mouvement, en fait, le projet, c'est ça qui était assez cool. Un peu stressant, mais c'était cool.
Lucie, tu avais une question peut-être ?
Je repensais au chapitre en mode road trip, et c'est vrai que ça sent que vous avez vraiment pris plaisir à dessiner ce chapitre, parce que j'ai encore les images en tête quand je l'ai lu. C'est ça, quoi. C'est le road trip américain comme on l'imagine et comme vous l'avez adoré, je pense.
Du coup, il est sorti au format épisodique. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous l'avez pensé sous ce format-là dès le début pour pouvoir écrire l'histoire en fonction? Un petit peu, parce que, sincèrement, on ne va pas se mentir, à la fin de chaque feuillet, on a le typique cliff des comics américains, quoi. Genre, tu veux la suite, reviens le mois prochain, quoi. Et c'était assez frustrant, donc il fallait attendre, c'était long. Est-ce que vous, ça vous amusait de jouer un petit peu comme ça avec le lecteur? Est-ce que c'était vraiment... est-ce que du coup, l'écriture était faite pour ce format-là dès le début?
Complètement. Après, il y a eu le passif avec, Puta Madre, que Ron avait écrit avec Neuyev, qui était sorti dans ce format-là. Donc, au niveau édito, c'était cool de rester un peu dans la même logique. Mais clairement, je pense que la toute première fois où Ron me l'a présenté, il m'a dit clairement, c'est... ce sera en épisodique. Et voilà, même lui, il a l'idée, il dit, moi, je l'écris presque comme une série télé. En fait, vraiment, il faut imaginer ça comme une mini-série de 6 épisodes avec chaque épisode qui aurait effectivement un cliff à la fin et un mood. Voilà, il y a un épisode qui est vraiment road trip, un épisode qui est plus sur l'école, un épisode qui est plus sur différents sujets. Donc, c'est vraiment segmenté. Et je suis assez curieux, en fait, de voir la vie des gens, même moi, de le relire en intégral quand il va sortir en novembre. Parce que du coup, ça va être une expérience différente. Quoi. Même si je pense que Puta Madre était encore plus marqué sur le côté épisodique parce qu'il y avait vraiment des ellipses. Nous, c'est un peu moins marqué que ça. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner quand ce sera un seul bouquin. Parce qu'on ne l'a pas pensé comme ça.
Et voilà, donc en fait, l'intégrale, elle, va sortir. Est-ce que... le fait qu'il y ait ce format, je sais, elle est beaucoup attendue à part de nombreux lecteurs qui n'ont pas pu avoir soit les feuillets, qui s'y sont pris un peu tard ou autre. Donc elle est attendue. Est-ce que du coup, ça risque pas de nuire à l'expérience pour le lecteur, mais de peut-être avoir une autre approche et du coup, est-ce que ces retours de lecteurs sont importants pour vous?
C'est pour ça, comme je disais, je suis assez curieux de voir comment les gens vont l'appréhender, parce que c'est vrai que nous, on l'a vraiment pensé en épisode, et on trouvait ce format intéressant, justement, pour raconter l'histoire, même si on s'est amusé à créer une sorte de faux compte Instagram de l'héroïne, qui était censé, en fait, alimenter l'histoire entre deux pauses. Donc c'est vrai que nous, quand les gens nous demandaient ce qu'il y a une intégrale qui va sortir, on leur conseillait de dire « non, on préfère que vous le disiez en feuillet parce que nous, on l'a pensé comme ça. » Après, je comprends qu'en termes purement économiques, en termes de confort de certaines personnes, une intégrale, c'est plus pratique, c'est plus cool, ça fait un beau bouquin, ce que je comprends complètement, et moi, je suis content de l'avoir en intégrale. Donc, on va voir justement ce que les gens vont en dire, est-ce qu'ils vont trouver que ça fonctionne bien ou qu'il y a un aspect peut-être haché qui va se retrouver dans l'intégrale, on verra bien. Je pense que c'est bien d'avoir les deux et ça va peut-être donner une autre densité au récit, ça va peut-être donner une autre approche, donc c'est un peu l'expérience, on va voir.
Ouais, et puis même pour nous, ça va être une autre expérience de lecteur. Moi, c'est vrai que je l'ai suivi sous forme de fascicule, et du coup, j'ai hâte de le lire en version intégrale, comme tu dis, pour voir si ça va être autre chose ou pas?
Bah ouais, non, c'est vraiment deux trucs différents. Moi, je sais que pour même si c'est, on va dire, ça fait des gros feuillets, mais pour Grosserie, il était sorti en 4 tomes, donc un tome par an, et après il est sorti en intégrale. Bah, il y a à la fois l'intégrale était bien parce que les gens étaient plus perdus dans l'histoire parce qu'ils avaient vraiment tout sous la main, entre guillemets, une lecture. Par contre, c'était très très dense d'un coup, quoi. Alors que quand c'était sorti en album un par an, bah, c'était plus digeste. Par contre, les gens perdaient un peu le fil entre les mois, quoi. Donc c'est vrai que l'intégrale et le côté épisode, c'est vraiment deux expériences différentes, quoi.
Tu parlais tout à l'heure du compte Instagram que vous avez créé, justement. Est-ce que c'est toi qui le tenais à jour? Est-ce que vous avez fait des petits dessins exprès pour le compte Instagram? C'était assez malin de jouer avec ça, mais ça n'a pas été tant mis en avant.
Ouais, ben, on l'a fait un peu pour s'amuser. Nous, c'était on se donnait un petit planning. En fait, on savait qu'entre chaque épisode, on préparait entre 4 et 5 images avec Ran, que je dessinais, puis les retravaillais en format photo. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément poussé des masses. On essayait un peu, mais je pense que les gens ne captaient pas forcément tout de suite le délire. Moi, j'aurais aimé avoir plus de temps et plus de temps pour vraiment l'alimenter de manière un peu plus active. Et là, c'est en fait les aléas du temps avec les débats, ça a été un peu compromis. Mais voilà, nous, c'était aussi une expérience de voir comment on peut rendre un personnage vivant ailleurs que dans le bouquin. Surtout dans le bouquin, voilà, elle est accro aux réseaux sociaux. Donc pour nous, c'était marrant de faire ça. Ouais, voilà, ça coulait de source. C'était presque, même si les gens ne voyaient pas à côté, pour nous, c'était logique qu'elle ait un compte Instagram qui existe. Donc voilà, on n'a pas poussé pour le pousser, mais vraiment, c'était logique de le faire.
Ouais, puis au final, ça a été un petit cadeau pour nous, lecteurs, qui est toujours au courant. Il me semble que c'était écrit à la fin des fascicules à chaque fois, donc on pouvait
retrouver. Ouais, après, on l'a mis. Ouais.
Du coup, ouais, c'était. Moi, je trouvais que c'était chouette. C'était une chouette idée.
C'est cool.
Dans le premier chapitre, je crois qu'à un moment, il y a le compte Instagram quand il regarde son smartphone. Et je crois que c'est comme ça que moi, je l'avais trouvé. Parce que j'avais été checker, voir si vraiment ça existait.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, t'as analysé.
J'aime bien chercher ce genre de truc. On parle du coup de ce genre de choses un peu transmédia, entre guillemets, entre de la BD, là, les réseaux sociaux, etc. Moi, je vais profiter du label qui a un peu cet ADN. Là, vous êtes 4 à la tête. Il y a Run, Mathieu Bablé, Florent Maudou et toi. Du coup, on a pu avoir un petit peu la sensation de Florent quand on a échangé avec lui sur un petit peu comment il s'est retrouvé et tout. Un petit peu la même question avec toi. Comment tu t'y retrouves à gérer un petit peu le label, tes projets? Est-ce que tu as d'autres envies qui sortent un petit peu de la BD ou...
C'est beaucoup de boulot en plus. Après, c'est assez intéressant parce que moi, je trouve qu'en tant qu'auteur, et je pense que ça devrait être une expérience pour tous les auteurs, c'est de comprendre comment marche l'édition et voir le côté éditeur, en fait. Parce que on se rend compte de plein de dynamiques, de problématiques. Et je pense qu'il n'y a pas, il y a souvent des discussions, un peu une sorte de contradiction entre auteur et éditeur où ça se bat un peu, il y a un peu les méchants et les gentils. Et je pense que c'est enrichissant, en fait, de connaître l'envers du décor et de connaître les deux choses. Donc déjà, pour ça, c'est assez cool. Et après, en termes d'envie avec le label, ouais, on aimerait peut-être aller des fois plus loin, peut-être essayer de pousser l'audiovisuel si on peut un jour, pousser les produits dérivés aussi. Là, on en fait un petit peu, mais c'est vraiment des petites choses. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu figurine, trucs comme ça, proposer des produits qui sont un peu hors normes, des petits artbooks en plus ou des petits sketchbooks autour des bouquins. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de chercher. Et voilà, c'est un peu long à mettre en place. Donc, on est un peu, surtout moi, Flore et Mathieu, pour nous, c'est nouveau de devoir gérer une collection. Donc, on a beaucoup à apprendre et on a beaucoup à faire. Mais donc ça se met un peu en place. On espère que ça aboutira à des choses qui vont au-delà de la BD peut-être un jour. Même si moi, je reste très très accroché à la bande dessinée en termes de médium de travail, mais on verra, c'est un peu une expérience.
D'accord.
Au sein du label, tu as un surnom. Est-ce qu'on peut te demander d'où vient ce surnom ou c'est un passif douteux?
Non, c'est une histoire un peu nulle. Hein. Il m'appelle Blackie. C'est juste parce qu'en fait, quand j'étais début ado, je devais faire ma première adresse mail et je savais pas quoi mettre. Et en fait, j'ai sorti la première BD que j'aimais bien, c'était la BD Black Sad. Donc voilà, mon premier mail, c'était Black Sad, c'est toujours le même maintenant. Et en fait, quand j'allais sur les forums, je mettais Black Sad aussi, du coup. Et en fait, au fur et à mesure, les mecs m'ont appelé Blackie. Voilà, c'est resté comme ça. Donc c'est vraiment l'histoire du pseudo de collège.
Ouais, ça va, c'est pas honteux.
C'est pas honteux.
On parlait tout à l'heure, juste ma question précédente, du coup, savoir avec la gestion un petit peu du label et tout, si tu avais du temps pour tes projets. On te voit beaucoup faire des gribouillis, donc j'aimerais bien que mes gribouillis ressemblent à ça. Tu as pas mal de personnages, tu en parlais tout à l'heure, dans le thème un petit peu univers, avec leurs combinaisons qui me font pas mal penser aux petits persos de Death Stranding. On a vu récemment, est-ce qu'on peut imaginer voir quelque chose débarquer dans cet univers qui serait vraiment trop cool ou alors tu as peut-être autre chose de prévu après l'Obaloka?
Non, c'est complètement ça. C'est mon prochain projet, c'est tout ça. Donc, voilà, j'attends. Franchement, je pense que je vais quasi annoncer, même si c'est à demi-mot, mais moi, je bosse sur un one shot de science-fiction avec tous ces petits univers-là, ces petits persos et tout. C'est un univers qui me botte à fond. Je sais que il y a aussi le fait peut-être que avec Mathieu qui a un peu ouvert la voie avec Shangri-La et Carbon et Silicium sur le côté un peu science-fiction futur. Alors que c'était pas forcément le label n'était pas forcément comme ça au début. J'étais beaucoup plus urbain, beaucoup plus street. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie, même si c'est un univers moi, qui me botte depuis des années. Le fait qu'il soit arrivé, Mathieu, je me dis, peut-être que j'ai envie d'aller un peu dans son sens, parce que ce qu'il a fait, ça m'a vachement influencé. Donc, j'ai envie de me lancer dans mon petite histoire d'espace et de petits cosmonautes.
Ça va être trop
cool. C'est trop cool.
Moi, j'ai une dernière question. Après, on pourra te libérer. J'ai entendu dire un petit peu au détour d'une petite interview avec la maison d'édition, avec Romain de Kinaï, justement, on parlait de son nouveau label qui s'appelle Punch, dont Souria va faire une petite histoire. Est-ce qu'on peut imaginer, il nous a dit qu'il y aurait probablement des dessinateurs, auteurs français, etc. Est-ce qu'on peut imaginer te voir débarquer là-dedans avec une petite chose on ne sait pas.
Je sais pas si ça. Non, j'ai pas d'annonce particulière, mais après je suis en contact avec Romain. On a pas mal discuté. Moi, je trouve que c'est.
L'idée te déplairait pas.
Non. C'est puis moi, je trouve que c'est vraiment c'est un des rares éditeurs aujourd'hui que je trouve assez cool parce que. Je trouve qu'il a la même envie et la même ambition que pouvait l'avoir Run à la naissance du label. Il est ultra motivé, il s'est mis sur un segment qui est assez peu exploité, qui, je pense, a de l'avenir, vraiment ce côté proposer des BD cool pour les ados, les enfants, qu'ils soient pas connes, qui fait vivre des aventures. Donc je trouve qu'il s'est trouvé vraiment un segment très chouette et puis je le vois bosser comme un ouf et de manière très sincère, je trouve que ça fait assez cool. Moi, je vois beaucoup d'éditeurs qui me. C'est une vision vachement plus cynique du monde de l'édition. Et je trouve que lui, il a ce côté très frais. Et vraiment, il veut apporter un truc. Moi, je suis à 2000% derrière son truc. Et effectivement, j'en ai déjà parlé avec lui de projets. Moi, on va dire que le plus gros souci, même si c'est pas vraiment un souci, mais c'est que écrire pour des ados, je me sens pas encore à l'aise avec ça.
D'accord.
Parce que c'est autre chose. Moi j'écris des histoires que j'aimerais lire à la trentaine. Et c'est vrai que pour des ados, c'est différent parce que t'as pas envie de les prendre pour des cons. Donc il faut être un peu un peu impliqué, un peu sérieux. En même temps, tu t'adresses à quelqu'un qui a plus ton âge, du coup, il y a un peu une sorte
c'est
de
pas les mêmes problématiques.
C'est ça. Et moi, des fois, moi, je vois des BD pour ados. J'ai vu une interview d'un gars, je ne vais pas le citer, mais voilà, qui dit qu'il va mettre beaucoup de gros mots parce que c'est marrant. Des fois, il va parler un peu de sujets. Moi, je dis, c'est pas des sujets d'ados, tu vois, c'est des trucs comme ça, ça me paraît bizarre. Et donc, voilà, c'est très intéressant, mais pour le moment, je ne me sens pas encore prêt à vraiment écrire là-dessus. Hein.
D'accord. Ouais, c'est parce que voilà, on en avait parlé, je me suis dit peut-être les auteurs français, comme moi, j'ai mon travail, je me suis dit, si on va le voir, ça va être trop cool.
Ouais, et puis après, c'est un petit milieu. Moi, je connais très bien Surya qui bosse avec lui. Je connais très bien Valentin, il avait édité le bouquin The World. Moi, je suis hyper pote avec Valentin, donc ouais, c'est un petit milieu, donc forcément, les noms se partagent et puis on en discute tous ensemble. Donc ouais, non, c'est clair, j'en ai déjà parlé avec Romain.
D'accord, c'est très très sympa en tout cas. Merci beaucoup de ton temps, de nous avoir accordé à ce petit moment. C'était vraiment très très sympa. Je suis très très content.
Merci
Lucie d'avoir été là.
Ben, avec plaisir, merci beaucoup. On peut que te souhaiter bonne continuation dans tous tes projets.
Ben, c'est gentil, merci.
Du coup, peut-être si tu as, je sais pas, sur les réseaux, sur Twitter, si tu veux qu'on te retrouve, qu'on te suive, où on peut te retrouver.
Ouais, sur Twitter, je crois que c'est Guy Noir, mon pseudo. Je pense après, si on cherche Guillaume Saint-Jean, ça va se trouver assez facilement. Mais oui, c'est sur Twitter que je raconte plus de choses. Sinon, sur Instagram aussi, je crois que c'est Blackison. C'est que des noms différents, je suis désolé. Mais voilà, ouais, non, en tout cas, moi, j'aime bien communiquer sur les réseaux sociaux et tout. Puis j'aime bien discuter avec les gens.
C'est parfait. Encore une fois, un grand merci.
Merci
pour vous. Ben, vous nous retrouvez sur le blog comme d'habitude le lundi, mardi, mercredi, le vendredi et le dimanche. On est presque complet toute la semaine. Lucie vous fera ses petits dessins le vendredi comme d'habitude. Merci à toi, merci Guillaume encore une fois et une bonne fin de journée, soirée à tout le monde. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Salut.